Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, je vais vous présenter tous les trois, comme on dit au cinéma, par ordre d'apparition à l'écran. Mais enfin, là, c'est par ordre de citation en couverture. Et il se trouve que, je ne sais pas si c'est le hasard, en tous les cas, vous êtes très bien organisés, parce que en partant de vous, dans l'énonciation de la couverture, eh bien, on arrive à vous, aux deux autres co-autrices. Alors, Philippe Biwix, c'est comme ça qu'on prononce, hein. Vous êtes donc ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Vous avez commencé votre carrière chez Bouygues et vous dirigez l'AREP, filiale de SNCF Gares et Connexions, qui est la première agence d'architecture de France avec plus de 1000 collaborateurs. Si j'ai bien, j'ai fait comme vous, hein, j'ai pris des informations là où on peut les trouver, parce qu'à plusieurs reprises,
c'est
on parle
d'un motif. De couverture. Ouais.
Vous êtes l'auteur de près d'une dizaine d'ouvrages et d'essais dans lesquels vous plaidez pour l'adoption le plus rapidement possible du principe de sobriété à tous les niveaux et pour une remise en cause de la technique comme solution aux problèmes contemporains. Et vous avez été rejoint par deux régionales de l'État, si j'ose dire, à moins que ce soit vous qui les ayez rejointes, donc vous nous le direz, hein. Donc, à côté de vous, Sophie Jantet, vous êtes diplômée de l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux, qui est située à Talence. Vous avez travaillé en qualité d'architecte urbaniste dans plusieurs structures publiques d'aménagement, l'OIN, opération d'intérêt national bien connue, Euratlantique. Et puis aujourd'hui, vous êtes la directrice de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc. Vous avez été l'adjointe de Camille Yuri, qui est partie au cabinet de Pierre Urmé, qui vous êtes maintenant la directrice de l'OIM, hein, Bordeaux Aéroparc. Clémence de Selva, vous êtes la troisième autrice. Vous êtes architecte, donc depuis 2003, vous avez été responsable d'une agence d'architecture à Rabat pendant 4 ans. Et puis depuis 2004, vous êtes 14, pardon, vous êtes dans la région de Bordeaux. Vous êtes associé à Louis Maugin et Estelle Klugsterz. Et dans une agence située rue du Jardin Public à Bordeaux, j'invite celles et ceux qui nous regardent à consulter votre site internet pour mieux connaître vos projets. J'ai trouvé qu'il était fort bien fait, il est très beau. Donc je me permets d'indiquer, parce que c'est la figure sur votre profil LinkedIn, que vous animerez, Madame de Selva, le 10 novembre prochain à 13h, un webinaire sur votre ouvrage commun, La ville stationnaire. C'est ça ? Voilà. Alors, sans doute, faut voir avec un certain clin d'œil, non pas du tout d'ironie, mais un clin d'œil sur le fait que nous avons présenté votre ouvrage avec un tel titre, La ville stationnaire, la station ozone. Bravo, hein, vous êtes, on va dire que vous êtes raccord avec le lieu. Et on va rentrer dans le vif du sujet de ce livre de 340 pages, dont l'ambition, si j'en crois le titre de sa conclusion, est d'aller vers la ville vertueuse. Alors, j'ai une première question toute simple à vous poser, c'est votre couverture que l'on voit avec le livre en présentoir sur scène, elle nous montre un labyrinthe de maïs photographié dans cette très jolie cité touristique qui est Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous connaissent. Elle a connu comme maire pendant 25 ans Paul Quilès, bon, décédé malheureusement en 2021, bon, qui n'était pas le plus écologiste des maires de France, moins qu'on puisse dire. Et puis, quant au maïs, c'est de loin une des plantes les plus consommatrices en eau, pas vraiment la plante la plus sobre par excellence. Alors, moi, je sais souvent, et je sais que les auteurs n'ont souvent rien à dire dans le choix de la couverture. Parfois, ça les surprend. Alors, vous allez peut-être nous dire si c'est le cas, les unes ou l'un d'entre vous. Mais est-ce qu'il y a un sens, éventuellement, et si oui, lequel? Voilà, allez-y. Philippe Biwix, d'abord.
Waouh, ça démarre fort. J'avais compris qu'on passait pas une thèse, mais en fait, si.
Non, je
plaisante. La couverture, ouais, c'est toujours un truc très, très délicat. Ouais. L'histoire, c'est que moi, j'ai effectivement les ouvrages que j'ai écrits, j'ai toujours fini par chercher et trouver la couverture moi-même. Jamais été très, très satisfait. Et là, j'ai pris une mauvaise habitude récemment. En fait, c'est que les deux livres précédents qui sont sortis en poche, c'est avec une photo de Yann Arthus-Bertrand. Et c'est aussi une photo d'Yann Arthus-Bertrand, en fait. Voilà, donc, on a eu un certain nombre de propositions. On a réfléchi peut-être à une image de la ville. Alors, comme on parlait de la ville un peu durable, sympathique, qui ne s'étale plus autour d'elle. Alors, on avait le risque aussi de prendre un peu un village, un peu genre plus beau village de France, et puis d'avoir une espèce de ville figée. Ce qui n'est pas du tout notre propos. Nous, au contraire, on parle d'adapter, de transformer la ville. Voilà. Donc, il y avait ce risque en prenant une ville un petit peu trop verte et trop iconique. Voilà, si on partait sur des choses un peu avec des plans, tout ça, c'était un peu ça risquait d'être classé dans les livres d'architecture. On voulait pas être classé dans les livres d'architecture. Ce n'est pas un livre d'architecture. Et donc voilà, on a fini finalement à choisir une photo très belle aérienne. Il y en avait d'autres. Il y avait McLean par exemple qui a pris des très belles photos de villes aux États-Unis, mais ça faisait un petit peu trop États-Unis. Donc c'est vrai que ça finit avec un labyrinthe de maïs. On a eu des remarques un petit peu là-dessus en disant mais ça va pas être facile de faire les courses quand on habite là. Je ne sais pas effectivement si la maison est habitée. Mais voilà, en tout cas, graphiquement, voilà, c'est vert, c'est joli, c'est un bouquin d'écologie.
C'est ce qui est tout à fait raccord, si je puis dire, c'est que dans votre livre, on voit parfois le labyrinthe extrêmement compliqué, les labyrinthes, plusieurs, qu'il faut emprunter un peu pour se sortir ou pour trouver des solutions. De ce point de vue-là, l'image est très parlante. Alors, avec de tels pédigrés d'autrice et d'auteur, on pourrait croire que votre livre, justement, est un ouvrage d'expert, savant, pour ne pas dire d'un abord abrupt, hermétique, et aux profanes que nous sommes, en tous les cas que je suis. C'est de fait un livre très documenté, tout à fait sérieux et rigoureux, écrit, comme on dit, par des personnes du métier et des gens de l'art. Mais de fait, votre livre est très, très lisible. Je vous félicite parce que c'est vraiment un livre. Je ne dis pas que ça se lit comme un polar, mais il y a une histoire. Enfin, il y a un récit. Quoi. C'est vraiment passionnant. Le style, il est collectif et partagé, ce qui n'est pas évident pour, comme on dit, un ouvrage choral, ce qui fait qu'on ne parvient pas à distinguer les différents auteurs. Je vais donner juste deux petits exemples un petit peu de la tonalité de votre texte. Page 113, dans un chapitre sur les éco-constructions, je vous lis. Mais l'essentiel de la ville future est déjà là. Il ne s'agit pas, entre parenthèses, juste de construire en plus vert, entre guillemets, mais de verdir, entre guillemets, tout l'existant, ce qui est une autre paire de manches. Voilà. Donc, et puis un peu plus loin, dans la même page, si tous les bâtiments du monde surgissant de terre était désormais certifié, nous ne serions pas sortis de l'auberge pour autant, d'autant qu'il y a une vraie course au label le plus simple et le moins onéreux à obtenir. Voilà, donc c'est dans un langage qui est parfaitement accessible et on est loin, je veux dire, de ces innombrables ouvrages universitaires, enseignants-chercheurs, très conscients de leur haute valeur environnementale académique, sociologues, économistes, géographes, spécialistes de la science politique appliquée à l'urbanisme, ils se reconnaîtront. Producteurs de textes abscons et indigestes, bâtis sur du sable et construits à coups de notions, rendus compliqués pour faire semblant d'être complexes et prétendument scientifiques. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est pas du tout le cas de votre travail. Alors, dès les tout premiers mots de votre livre, vous interrogez votre titre, vous-même, la ville stationnaire, et son apparente étrangeté. Mais vous expliquez les raisons de ce choix, et surtout qu'il existe d'autres étrangetés que celle-ci en matière d'urbanisme. Qu'est-ce que vous entendez par ce titre et le sous-titre associé « Comment mettre fin à l'étalement urbain ?» Alors, je ne vais pas divulguer votre propos, comme disent nos amis cousins québécois, mais page 211, dans un paragraphe intitulé « Vers la ville stationnaire », vous dites justement, et vous l'avez dit, M. Biwix, tout à l'heure, ça ne veut certainement pas dire « figé ». Alors, allez-y, mesdames, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par le titre ? Peut-être Madame de Selva ? Non, c'est bon, allez-y, ça va.
Non, alors le propos, c'est pas du tout. Effectivement, on veut un peu. On parle en fait, voilà, d'étalement urbain beaucoup. En fait, ce qu'on raconte dans ce livre, c'est que la ville et la croissance urbaine n'est pas vraiment soutenable. Que la ville, elle s'étend, elle grignote en fait beaucoup sur les terres naturelles, sur les terres agricoles, sur les terres forestières, et que en plus de ça, elle est très très gourmande en ressources et elle a un fonctionnement en fait qui est pas soutenable, voilà, qui émet beaucoup de CO2 dans la fabrication de la ville et après dans son fonctionnement. Voilà, le propos du livre, c'est de dire que la ville aurait vocation à peut-être arrêter de croître, arrêter de grignoter comme ça sur les terres naturelles. C'est aussi pour ça que sur la couverture, on a voulu montrer non pas de la ville, mais finalement des terres naturelles, même si le maïs, c'est pas forcément le plus vertueux qu'on aurait pu trouver.
J'aurais pas reconnu que c'était du maïs si vous aviez pas eu
l'idée
de le mettre en quatrième de couverture.
Donc l'idée, c'est de dire qu'il faut plutôt protéger les sols, qu'il faut réussir à continuer à faire évoluer la ville, à la réparer aussi, à la rendre toujours plus, enfin, à la rendre agréable à vivre aussi, mais en protégeant, en réussissant à vraiment protéger les sols. Donc c'est un peu l'idée de la ville stationnaire, c'est la ville qui continue à grandir, qui n'est pas figée. Mais c'est de dire que c'est l'idée de la stationnarité. Philippe va reprendre après ça, mais c'est l'idée de se dire qu'il faut faire avec ce qu'on a. En fait, on a des villes, on a des bourgs, on a des villages, on a des tas de on a une richesse en fait urbaine en France, et il faut peut-être essayer d'abord de regarder ce qu'on a, avec quoi on peut travailler, les villes et les villages, les bourgs, et améliorer ça, travailler là-dessus.
C'est pour ça qu'on va y venir, mais vous dites aussi que la ville devrait plutôt essaimer, hein, désormais. Voilà. Un mot, Madame Janté, peut-être.
Je sais pas. Enfin, on part aussi d'un constat, c'est-à-dire on se rend compte que, si on veut donner quand même quelques chiffres, on se rend compte qu'on met en production 2 logements pour un habitant supplémentaire en France. Donc on nous dit tout le temps qu'il manque des logements. Et il y a une réalité, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des difficultés pour se loger. Mais ça interpelle quand même, quoi. Et en même temps, effectivement, on nous dit qu'il faut densifier les villes, c'est-à-dire les construire sur elles-mêmes en hauteur, en verticalité, pour éviter de les étendre. Et puis finalement, quand on regarde un peu les chiffres, on a effectivement à la fois densifié les villes, la métropolisation, les villes sont devenues de plus en plus, avec de plus en plus de concentration de population, et en même temps, on constate qu'on artificialise aussi, quoi. Donc on se dit finalement, on nous dit qu'il faut faire dense dans les villes et concentrer les populations pour être plus efficaces, pour moins étaler, et parce qu'on y trouve tous les services, etc. Puis finalement, on constate que même les grandes villes, elles s'étalent parce qu'il y a des services servant la ville qui, elles, se densifient, qui vont être réalisés justement sur des terres agricoles ou des choses comme ça, quoi. Donc en fait, c'est à la fois d'abord un constat, et puis après, c'est quelques pistes, mais
alors,
on va pas manquer d'évoquer.
On va rester autour de cette notion d'état stationnaire. Vous citez un auteur, alors on est un peu surpris de le voir apparaître, parce que c'est ce qu'on appelle un des grands classiques, on a appris ça en économie, John Stuart Mill, 1806-1873, et vous le citez au début de votre propos, d'ailleurs vous placez un peu votre travail, j'allais dire, c'est moi qui le dis comme ça, mais sous son parrainage, puis à la toute fin d'ailleurs, l'avant-dernière page de votre livre, vous dites revenir à Stuart Mill aussi. Alors lui, il disait, vous le citez page 16, de votre livre, il a considéré l'état stationnaire comme à la fois atteignable et positif. Et vous dites, c'est un des rares économistes à ne pas considérer la fin de la croissance comme une fatalité plutôt désagréable. Puis à la fin, vous dites qu'il est un des tout premiers à employer un mot qu'on utilise maintenant à tort et à travers pour n'importe quelle série sur une plateforme bien connue, le mot dystopie. En fait, c'est intéressant. C'est lui qui l'emploie, dites-vous, à l'occasion d'un débat aux communes à propos de la politique foncière en Irlande, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Alors Stuart Mill, pourquoi Stuart Mill ?
Alors, pourquoi Stuart Mill ? À cause de la stationnarité. C'est-à-dire que quand on a proposé ce titre, notre éditeur a eu un peu des sueurs froides, parce que la ville stationnaire, c'est pas forcément très, très vendeur. On comprend pas trop si ça parle de stationnement urbain ou je sais pas quoi.
Bon, de satellite donc, géostationnaire.
Voilà, c'est ça, stationnaire. Bon. Et donc, effectivement, en général, cet adjectif, on l'emploie quand on parle d'économie stationnaire. Donc, John Stuart Mill, c'est quelqu'un qui a été un peu récupéré, on pourrait dire, par les libéraux. C'est vrai que c'est un grand classique des économistes anglais du 19e siècle. En fait, son père était lui-même un économiste libéral, venant un peu de toute la tendance Jeremy Bentham, les utilitaristes, quelque part. Son père, pour la petite histoire, c'est
Benjamin Franklin, quoi.
Exactement cette galaxie-là de la fin du 18e. Son père, il était copain avec David Ricardo. D'ailleurs, dans sa biographie, John Stuart Mill dit c'est mon père qui a poussé David Ricardo à écrire. Et il n'aurait jamais écrit sans mon père. Bon, je ne sais pas si c'est
vrai ou pas. Après, il a donné des cauchemars à des générations entières.
Voilà. Bon. Donc, George Swartzman, il était plutôt connu pour ça. Aujourd'hui, en fait, depuis qu'on a écrit le bouquin, ça n'a rien à voir, mais on le voit partout. Alors, c'est peut-être parce qu'on a, nous, on est focalisé là-dessus. Ouais. Il y a eu plusieurs articles cet été dans des grands journaux. Et on redécouvre John Swartzman, et notamment, d'ailleurs, sur ses positions sur le féminisme, il était pour le droit de vote des femmes, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et effectivement, il a eu ce courage. Il y a beaucoup de penseurs qui ont écrit la fin de la croissance au 19e siècle, des économistes. Ricardo, par exemple, pensait que la croissance allait s'arrêter aussi, parce que soit par manque d'innovation, ou même Marx, je crois, c'était par le fait que le taux de
profit... La baisse tendancielle du taux de profit. Hein,
la baisse tendancielle, la fameuse baisse tendancielle du taux de profit, où c'était le fait que voilà, il y allait avoir une limite à la rente de la terre. Ça, c'était Ricardo qui pensait ça. Donc, et tout le monde voyait ça un petit peu comme un stress. Et en fait, lui, Mill, a vraiment écrit en disant, mais non, en fait, la fin de la croissance de l'économie, une fois atteint un certain niveau de richesse, ça n'empêche pas d'avoir encore du progrès humain, ça n'empêche pas de continuer à progresser. Hein. Le 19e, il est progressiste, il est peut-être plus progressiste que le 20e siècle dans ses idées. Hein. Tout le monde pense vraiment à la technique qui va permettre finalement de se développer, de devenir plus heureux. Et donc, voilà, lui, il disait, ben non, c'est pas grave, il n'y aura plus de croissance démographique et de croissance économique, mais on continuera à avoir du progrès humain. Et du coup, on a projeté ça sur la ville en disant, c'est une ville qui arrête de croître. Mais arrêter de croître, c'est pas la terreur, c'est pas la catastrophe, et ça n'empêche pas que ça soit une ville qui progresse quelque part, qui se répare, qui s'insère dans les grands enjeux du 21e siècle que sont l'adaptation au changement climatique, la neutralité carbone, etc. Mais il faut penser cette ville différemment. Donc, on est parti effectivement de ça. Et puis on a découvert un peu sur le tard pendant la rédaction qu'effectivement c'était le premier à avoir en anglais on dit coiné estampé ce mot de dystopien, en fait il dit pas dystopique, dystopian en anglais, et donc après ça a été utilisé par Wells et plein d'autres. Donc on trouvait ça assez sympathique de dire attention, la ville du futur, on nous prémet une ville finalement très technologique, très dense. Je ne sais pas si vous avez vu cet été, il y a eu un petit débat. D'ailleurs, on en parle sans avoir su que ça allait sortir cet été non plus, parce qu'on a évidemment fini la rédaction de l'ouvrage de cette ville un peu futuriste, Neom, en Arabie Saoudite, cette ville linéaire là, qui ferait 170 km de long avec un hyperloop au milieu. Et puis, on pourrait aller à la plage en un quart d'heure et puis faire du ski pour les prochains JO. Avec un espèce de truc extrêmement vertical. On est dans le cinquième élément, on est dans la science-fiction. Donc ça, c'est la dystopie, quelque part, qu'on nous propose, quelque part. Alors, en version un petit peu adaptée à l'européenne, un peu gentil, mais la Smart City, ça continue, est un truc qui existe.
On y viendra.
Donc c'était un peu cette idée-là, et on a voulu naviguer un peu avec John Stuart Mill un peu à nos côtés, c'est ce qui est tout à fait sympathique.
Alors, votre livre, il est très optimiste. Il n'y a pas du tout de... Je veux dire, une tonalité anxiogène même, hein, c'est tout à fait positif. Et vous dites, par exemple, il faudra construire considérablement moins. D'ailleurs, construire moins sera de toute façon nécessaire pour construire mieux. Mais vous dites aussi, on a parlé de l'SMH des métropoles, loin d'être mortifère, une telle orientation est possible, à notre portée. En une génération ou moins peut-être, elle est raisonnable et enthousiasmante même. Et votre travail, vous le dites d'ailleurs, c'est aussi la déconstruction des idées reçues. C'est vraiment passionnant parce que, d'une certaine façon, vous déboulonnez un certain nombre d'idoles, même de jeunes idoles qui sont apparues il n'y a pas très longtemps. Et puis et vous remettez un peu, non pas l'église au milieu du village, mais un peu les choses en place. Alors, d'abord, je voudrais qu'on évoque... la question de la densité. Hein. Vous dites, il existe autant de classements que de sources sur les densités, car les surfaces prises en compte font varier les chiffres. Ah oui, ça paraît, j'allais dire, presque du niveau de l'arithmétique d'une classe d'école primaire. Enfin, c'est évident. Si tant est que le dénombrement des populations, d'ailleurs, lui-même, soit juste. Et puis, page 27, vous avez une photo qui est très parlante d'une ville qui n'est pas forcément très connue, mais on connaît l'archipel. C'est l'île de Malé, avec une densité, tenez-vous bien, de 110 000 personnes pour un peu moins de 2 km carrés. Et comme cette île de Malé, qui, en fait, si j'ai bien compris, la capitale des Maldives, c'est ça, bon... Au train où vont les choses, il y a intérêt à habiter dans les étages supérieurs parce que ceux du rez-de-chaussée risquent d'être assez vite les pieds dans l'eau. Et vous dites ici pas d'erreur possible sur le périmètre de l'aire urbaine prise en compte. Évidemment, je suis même allé voir un peu plus près sur quelque chose qui se termine par Earth, la configuration des lieux. Alors, comment, si le débat est aussi contradictoire sur la notion de densité, qui est quand même pas rien, parce que c'est presque un peu la base des choses, hein, parvenir à construire, on y reviendra sur autre chose, un savoir épistémique commun et partagé. Madame Janté.
Sur la densité, en fait, déjà, il y a la densité de population sur un territoire. Donc ça, c'est des chiffres qu'on pratique.
On rappelle pour la France, hein, 550 000 km², 63 millions d'habitants. Donc
et on est à 120 habitants. Près,
hein. Voilà, en moyenne, hein, ça. Ouais. Donc on a la Creuse d'un côté.
Voilà, c'est ça. Alors après, entre Paris, effectivement, voilà. Et puis notre métropole, c'est 1400 habitants.
C'est ça, ici sur la métropole de Bordeaux.
Ouais, la métropole, c'est la moyenne des métropoles en fait en France.
1400 habitants au kilomètre carré.
Et Paris, c'est, je vais pas dire de bêtises, 21 000. D'accord. Mais on a des quartiers, c'est pour ça que c'est la différence des chiffres. On a des quartiers dans Paris où on est à 80 000, quoi, par exemple. D'accord. Donc le troisième arrondissement, un arrondissement très dense, quoi. D'accord. Alors bien sûr, parce que forcément, si vous avez un parc au milieu du quartier. Ça va faire chuter la densité globale. Et en fait, voilà, donc c'est quand même un rapport d'emprise bâtie, hauteur, ramené à un périmètre. Donc, soit vous.
Alors, pourquoi il y a débat, pardon ? Pourquoi il y a débat ?
En fait, il y a plus débat sur. En fait, on peut refuser la densité, mais finalement, refuser la densité, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Parce que.
Ça veut dire quoi, pardon, refuser la densité ?
Aujourd'hui, il y a des débats sur le fait que la densité des villes, elle devient. On n'arrive plus, on suffoque, voilà. Mais en fait, la densité en soi, on l'aperçoit donc parce que c'est un rapport en fait d'occupation sur une emprise.
D'accord.
Donc effectivement, on peut avoir une très grande emprise avec une occupation, par exemple, par des tours. On va penser que c'est dense parce qu'on a des tours. Donc on associe en fait la densité à la hauteur, là, pour le coup, du bâtiment. Mmh. Alors que si on ramène finalement les mètres carrés qu'il y a dans cette tour à l'emprise du terrain, de la propriété à laquelle elle appartient, ça va être très faible.
D'accord.
Ça va être plus faible qu'une échoppe bordelaise, des fois. Enfin, j'exagère, mais à peine. Mmh. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a les chiffres, et puis après, il y a le vécu, quoi. Il y a la forme urbaine. Donc déjà, voilà, le débat, il est plus sur la forme urbaine, finalement, sur l'environnement que construit, en fait, les formes bâties, hautes, très hautes, des tours, pas des tours, des maisons, etc., ça, c'est la densité ressentie que la densité chiffrée. Donc, en fait, voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a la densité en soi. Je veux dire, c'est pas on peut pas dire il y a une bonne densité, une mauvaise densité. Ce qu'on voit, c'est que des densités importantes en ville, c'est plutôt comme Paris, on est sur une densité de 4, c'est-à-dire qu'on a un rapport de 4 fois l'emprise au sol bâtie. En mètres carrés bâtis, quoi. Voilà. Mais bon, finalement, ça nous apporte pas grand-chose de savoir ça.
Alors, j'en profite pour dire que dans votre livre, il y a de très jolies et très pédagogiques infographies qui ponctuent le livre. Je sais pas, j'ai pas trouvé qui les a faites. Dans tous les cas, c'est vraiment très 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 bien parce que ça.
Elles ont été faites par nous, par Estelle Cluxer, que vous avez cité tout à l'heure.
Je la vois pas parce que j'ai le spot dans les yeux, mais félicitations. Dans tous les cas, ça parle bien et ça dit bien les choses. Hein. Puis c'est des bonnes respirations. Et vous posez une question vous-même, hein, page 51. Peut-on densifier et renaturer à la fois, Madame de Selva? Je vous la pose la question.
C'est bien toute la question et c'est bien tout l'objet du débat aujourd'hui, c'est d'arbitrer en fait, donc de faire des choix un petit peu en conscience. Parce que là, comme vient de dire Sophie, la densité, évidemment, ça a des vertus en fait, parce que c'est utile parfois la densité, ça nous permet aussi d'avoir voilà, des services publics de qualité, de faire exister des services, des commerces, de faire exister des transports en commun, des services publics, des écoles, etc. Donc ça, il y a une sorte de niveau de population, quelque part, qui font exister des choses qui sont vraiment utiles et vertueuses. Donc après, la question, c'est à quel moment, en fait, enfin, à quel moment c'est trop dense, en fait, à quel moment on doit s'arrêter. Et la question, c'est que c'est la question de la qualité urbaine, en fait, de ce que je viens de dire, donc de la qualité de vie en ville. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend bien compte depuis, bah, depuis aussi le Covid, depuis la pandémie. On a besoin, même la nature en ville est plébiscitée quelque part, c'est-à-dire. En fait, on se rend compte aussi, c'est toujours la même histoire, ce sont les sols de ce que nous apporte en fait la nature, les sols, tous les services qui sont apportés par la nature en ville. Donc, non seulement il faut préserver les sols hors des villes, mais en fait, on a aussi des jardins, on a aussi une nature qui est en ville. En fait, on a des alignements d'arbres, on a des parcs publics, mais on a aussi toute la nature qui est dans les cœurs d'îlots, dans les jardins. Et en fait, tout ça, c'est pas seulement des choses dont on profite enfin, en termes de loisirs, c'est aussi des services qui nous sont rendus collectivement. C'est-à-dire qu'un jardin, même un jardin privé, en fait, il est utile pour.
Il bénéficie
à son propriétaire, mais en réalité, il rend des services quelque part, sauf s'il est en gazon synthétique, mais en gros, sinon, il rend des services à la collectivité, en fait. Alors, des petits services, en fait, c'est pas forcément. Voilà, mais c'est pas rien. Et en fait, de plus en plus, on va plébisciter cette nature en ville, même il y a. On voit même des ratios. On dit par exemple, il faut absolument 10 mètres carrés de jardin de nature par habitant, etc. Alors il y a plein de débats là-dessus aussi. Et ben, la question c'est si on veut préserver les sols, enfin l'ambiguïté un peu fondamentale, c'est en même temps si on veut préserver les sols nourriciers aussi hors des villes. Comment est-ce qu'on fait pour préserver à la fois ceux qui sont hors des villes et à la fois ceux qui sont en ville? Parce qu'on va devoir, si on ne peut plus construire en étalement urbain et que du coup il va falloir construire aussi en renouvellement urbain, donc en ville, donc faire la ville sur la ville. Alors quid justement de cette fameuse nature en ville? Et donc peut-être qu'un des leviers, enfin, on va en parler après, mais c'est de construire un petit peu moins, voilà, et d'essaimer.
Parce que dans les rapports compliqués, parce que vous venez un petit peu d'en parler, Madame de Selva, dans les rapports compliqués, j'allais dire, entre les villes et ce qu'on peut appeler, alors je ne suis pas, encore une fois, je n'ai peut-être pas les bons mots, hein, l'interland, hein, enfin la banlieue proche, hein, ou l'étranger proche, comme disent les Russes à propos d'autre chose, on voit que, historiquement, les villes et les métropoles se sont souvent construites contre les campagnes alentour, hein. Vous dites censé être inclusive et offrir une multitude de services et de fonctions mises en réseau, les grandes agglomérations deviennent de manière contradictoire, sélective et inégalitaire. On l'a bien vu à la faveur des événements sociaux des dernières années, provoquant l'étalement urbain et générant des besoins de transport accrus qui vont se heurter aux capacités des infrastructures routières. Mais historiquement, par exemple, quand on prend les grandes cités hanséatiques, hein, des ports de la Hanse, hein, et ça date du Moyen-Âge, hein, où il y a, je crois, plus de 150 cités, hein, qui sont dans ce bassin qui va, en fait, de Anvers à Londres, et puis qui va jusqu'à Riga, la Baltique, l'actuelle Finlande, la Suède. Ces grands ports se sont construits d'une certaine façon en confrontation avec leur territoire, tout en bénéficiant aussi.
Oui, alors la ville et la grande ville en particulier, force économique, et donc là vous citez des exemples, mais on pourrait prendre aussi Paris, qui est alimenté par tout son réseau de la Seine, de l'Aube, de Lyon, etc.
La Marne
bon. Elle a toujours attirer quelque part. En fait, c'est, toute l'histoire, c'est on monte à la ville pour chercher du boulot, pour avoir d'autres opportunités, pour être porteur d'eau au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, souvent, en fait, on vient à la ville pour y mourir plus jeune qu'à la campagne. Avant l'invention des antibiotiques et de quelques trucs comme ça, il ne fait pas forcément toujours bon vivre en ville. Et en particulier à partir du 19e siècle, avec l'industrialisation de la ville. Donc les villes, elles ont toujours attiré. Donc ce phénomène, il existe. Mais ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il, enfin, ou depuis 20 ans, 30 ans, avec finalement cette logique de métropolisation, c'est que la puissance publique est contente de cette croissance et a estimé que cette croissance, elle était quelque part nécessaire pour avoir voix au chapitre dans la compétition mondiale, quoi. C'est-à-dire que une grande ville, une métropole millionnaire ou un peu plus, ça permet d'être dans le classement des universités, ça permet de créer plus d'emplois qu'ailleurs, ça permet d'attirer des populations plus jeunes et plus éduquées, plus, etc. Donc il y a ce tropisme historique, mais auquel on a rajouté une couche institutionnelle de marketing territorial, quelque part, en disant, c'est génial, venez chez moi, installez-vous à Angers.
Vous vous plaidez plutôt pour le démarketing territorial, et vous dites que c'est un concept qui est tellement jeune, qu'il n'a même pas encore sa notice Wikipédia.
Alors, il n'a pas sa notice Wikipédia, alors on aurait dû, il faut qu'on fasse l'article.
Oui, voilà, lancez-vous.
Alors, ça démarre, c'est jeune, mais c'est né... Alors, le démarketing, tout court, ça a été un tout petit peu théorisé, je crois, dans les années 60-70. On cite l'article original, d'ailleurs.
Pas territorial.
Mais pas territorial. Mmh. Et donc, ça a démarré. En fait, on le voit avec les grandes villes qui subissent très fortement le tourisme. Donc, on va dire un effet à la fois de...
C'est quoi ? Venise, Barcelone ?
Venise, exactement. Mmh. Venise, Barcelone, typiquement. Mmh. Donc, avec des effets à la fois Airbnb et désertification des centres et des commerces et muséification des commerces, etc., plus les bateaux de croisière qui viennent se mettre à touche-touche. Je ne pense à aucune ville particulière française en parlant de ça. Mais voilà. Et donc ça a commencé à créer des phénomènes d'envie de démarketing. Alors, ça prend quelle forme ? Ça peut prendre la forme d'un maximum, par exemple, de fréquentation. On va limiter d'abord le nombre de bateaux qui peuvent venir. Le Mont Blanc a commencé à faire du démarketing territorial, avant même la dangerosité de la fonte des glaciers. Maintenant, ça devient de plus en plus dur, je crois, à visiter, mais c'est limité à 214 par jour, je crois. Ah, oui. Et récemment, le parc national des Calanques, donc à côté de Marseille. Alors, il y a eu un peu
vous
un débat.
Montrer les photos.
Avec les photos, effectivement, c'est assez drôle d'aller voir le site encore. Vous allez sur le parc national des Calanques. Si vous allez sur un truc de pub normal de visiter Marseille et autour de Marseille, vous allez avoir des Calanques vides, sublimes, avec, vous voyez, l'eau turquoise et pas un chat. Un peu comme d'ailleurs quand vous voulez prendre une croisière. Il y a toujours un bateau de croisière au fond, puis la plage est vide. On ne sait pas où vont être vos 1000 et 4000 passagers du bateau en question. Donc c'est tout vide. Et puis quand vous allez sur le parc national, sur le site du parc national, en fait c'est plein. Il vous montre en fait comment c'est pour de vrai, le parking, le chemin, la route, quoi, pour dire oulala, surtout venez pas en fait, enfin venez pas ces jours-là. C'est assez étonnant et assez intéressant. Alors là, ils ont défrayé la chronique plus récemment après qu'on ait fini de régir l'ouvrage, parce qu'ils ont mis un QR code maintenant pour accéder à certaines calanques. Donc ça pose des questions de numérisation. Il y a des gens qui disent
Je vous interromps, pardon, parce que on voit bien que vous soulevez un aspect, puis on va y revenir à plusieurs reprises. C'est quand même ce que vous appelez dans votre livre les injonctions contradictoires auxquelles, en particulier, les décideurs politiques sont soumis. Alors, on va y revenir dans la relation, y compris avec les citoyens, avec, j'allais dire, leurs électeurs, parce que on est aussi au cœur de ce problème-là. Puisque les élus, il faut qu'ils figurent, vous avez dit à l'instant, dans des palmarès de dynamiques de ville. Encore sans parler, sans donner d'exemple précis, on se souvient d'une métropole 3.0 qui voulait être millionnaire dans les années 90-2000, enfin 2000. Alors, votre référence au QR code m'amène à une transition, à parler des smart cities. Parce que voilà, typiquement, vous verrez. Monsieur Biwix, qui est...
C'est mon couleur de nage, ouais.
Bon, je cite quand même parce que il y a une phrase de Stéphane Richard, qui était le patron d'Orange, qui, à l'automne 2000, à propos de l'attribution des fréquences 5G, disait « Les villes, par la 5G, réussissent leur transition écologique. » Alors, c'est ce qu'on va appeler cultiver l'oxymore à un point assez, assez avancé. Vous parlez des promesses délétères des smart cities. Alors, expliquez-nous d'abord ce que c'est qu'une smart cities, ce qui n'est pas une marque de bonbons, concentré. Mais qu'est-ce qu'on a voulu dire et faire par là, et pourquoi finalement ça se révèle une mariée qui n'est pas forcément si belle que ça.
Alors pour le coup, smart city, donc il y a une page Wikipédia, donc on va dire en français c'est la ville intelligente. En fait, c'est l'idée que c'est de la cybernétique en fait appliquée à la ville. Donc dans l'industrie, ça marche depuis, ça a démarré dans les années 50. Voilà, c'est le fait de dire en mettant des capteurs quelque part et en ayant toute une série d'informations sur le fonctionnement de la ville, eh bien, on va réussir avec un certain nombre de logiciels, de surveillance, etc., à apporter des services supplémentaires et éventuellement que ces services deviennent permettent d'avoir des villes de plus en plus écolo. La Smart City, en fait, elle n'est pas née tellement sur une promesse écologique à l'origine. Elle naît à la fin des années 2000 avec des grandes sociétés comme Cisco, comme IBM, et qui vont venir en fait dans le contexte d'une crise économique tout court, hein, la crise de 2008-2009, et du coup un peu d'une crise des finances publiques aussi, allant avec la crise économique. Ils vont venir promettre en fait le fait qu'on va avoir des services plus efficaces. Finalement, c'est faire de la productivité grâce au numérique dans la ville. C'est-à-dire, je vais faire très simple, mais de dire, si à un moment vous avez tous vos citoyens qui peuvent flasher le fait qu'il y a une bordure de trottoir qui est en travers et qu'on peut faire une photo et l'envoyer, bah, ça évite d'avoir des gens qui se baladent pour voir si tous les trottoirs sont en bon état. Vous voyez,
j'entendais ce matin sur une radio du service public que dans une commune du nord de la France qui a mis en place une appli qui permet d'éclairer sa rue.
Donc
ça dure 4 minutes, la rue est éclairée. On peut dire que l'idiot du village va passer son temps à appuyer sur le bouton pour éclairer sa rue.
Alors comme toutes les promesses, ça s'emballe très vite parce qu'il y a un écosystème de consultants, d'entreprises qui ont envie de vendre des trucs, d'élus qui ont envie de se dire oulala, si lui il fait Smart City, moi je le fais pas, je vais avoir l'air con. Donc il y a un peu toute cette rivalité mimétique qui joue aussi. Voilà, et donc ça a un peu fait le buzz, et ce qui a fait le buzz en particulier dans la Smart City, c'est qu'à Toronto, donc une filiale de Google, d'Alphabet, la maison mère de Google, qui s'appelle Sidewalk Labs, donc le laboratoire des trottoirs, a gagné en fait un appel à projet pour rénover un quartier à Toronto, le quartier de Quayside, et avec une logique de dire finalement faire une sorte de Google City qui allait être extrêmement numérisée, mais extrêmement optimisée aussi, avec beaucoup d'énergie renouvelable.
Vous dites qu'ils ont fini par retirer leur BI.
Ils ont jeté l'éponge en 2020, effectivement, mais pas tellement pour des questions de... En fait, officiellement pour des raisons économiques, et un peu plus officieusement parce qu'ils étaient titillés par les citoyens, les futurs citoyens des habitants, parce que en fait, c'était comment allaient être utilisées les données, quoi. Donc voilà, c'était Google, donc il y avait cette question un peu de propriété, d'exploitation à des fins commerciales des données privées. Donc effectivement, ça a un petit peu... ça a été le premier acte de décès de la Smart City. Bon, mais il y a encore, j'ai vu un Smart City Symposium à Barcelone au mois de novembre. Là, donc, elle n'est pas encore tout à fait morte. Mais en fait, effectivement, quand on va dépouiller un peu les promesses de la Smart City, il y a des choses sur, par exemple, la sécurité. On pourrait dire, bah voilà, vous mettez des caméras partout et puis des logiciels qui vont analyser les mauvais comportements. Bah voilà, vous, quelque part, vous pouvez faire une promesse de ville plus sécuritaire. Vous pouvez avoir
un très bon documentaire visible en replay sur Arte. Je n'ai plus l'auteur, pardon, mais qui a eu le prix Albert Londres du documentaire qui s'appelle 7 milliards de surveillés. Voilà, impressionnant avec les reconnaissances faciales, etc. C'est alors là pour le coup.
Voilà, donc là vous avez une possibilité. Voilà, donc là il y a des choses vraiment. Ensuite, il y a des trucs qui en fait n'ont pas attendu la Smart City pour exister, qui sont de fait de mettre par exemple des capteurs sur des tuyaux d'eau, des choses pour détecter des fuites, etc. Mmh. Mais ça, bon, voilà, maintenant ça a été réestampillé Smart City, mais bon, il n'y avait pas besoin
de ça. C'est pertinent à votre avis?
Bah oui, c'est très pertinent parce que vous avez vous exploitez un réseau, bah, de savoir où vont être vos fuites ou pas et pouvoir détecter en temps réel. Et quelque part, ça peut même être un peu écolo en disant que vous évitez quelques tournées supplémentaires, peut-être. Bon, je pense que voilà, c'est une histoire de mesure. Encore une fois, on parle pas de dizaines de millions, de centaines de millions, de milliards d'objets connectés. Mmh. On parle de quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers. C'est pour le coup, à mon avis, pas catastrophique et intéressant. Bon, mais une fois qu'on vient sur les questions vraiment purement écolo, donc c'est vrai que Stéphane Richard, en fait, il dit même pire que ça, hein, il mouille la chemise pour la 5G à l'époque, et il dit les villes auront besoin de la 5G pour faire leur transition écologique. C'est-à-dire que ça va être indispensable d'avoir cette brique de base, finalement, de tous ces objets communicants pour devenir écolo. Mmh. Et en fait, quand on regarde ce que sont les cas d'usage environnementaux de la 5G, en fait, on trouve pas grand-chose, quoi. On a trouvé les poubelles, qui pourraient être connectées et qui pourraient prévenir quand elles sont pleines pour optimiser les taux de ramassage. Par exemple, vous voyez quand votre conteneur en verre est plein et puis vous êtes obligé de poser les bouteilles à côté parce que c'est le 1er janvier, je ne sais pas quoi. Donc voilà, là, ça serait un peu ça. Bon, mais ça ne va pas faire gagner grand-chose par rapport à tout ce qu'il va falloir dépenser comme énergie pour mettre les data centers et toutes les données de la Smart City au bout, quoi.
Alors c'est derrière ça qui est vraiment, j'allais dire, passionnant dans votre livre, c'est que vous remettez, j'allais dire, toujours en perspective, tel ou tel une solution. Il n'y a pas de solution idéale ou miracle. Hein. Il y a toujours la nécessité. Hier soir, à votre place, vous y avez assisté, mesdames. Éric Orsenna évoquait la nécessité de remplacer l'impact par bilan. Hein. Et donc, ce fameux bilan coût-avantage. Et je vous lis encore, page 97. Plus nous technologiserons, alors on retrouve votre thèse, hein, je veux dire, hein, nos objets, nos services, nos bâtiments, nos villes, plus nous piocherons dans le stock limité de ressources, souvent plus rares, et plus nous nous éloignerons d'une économie circulaire, accélérant au lieu de freiner la logique extractiviste actuelle. Il y aura, en tout cas, toujours un arbitrage à effectuer pour chaque déploiement. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant la question des labels. Alors, peut-être que vous allez, Madame de Selva ou Madame Janté, traiter de la question de l'éco-construction. Parce que je pense que vous êtes peut-être confronté dans votre pratique professionnelle sur cette notion. Là où on voit que votre livre n'est pas manichéen, c'est que vous dites « Reconnaissons ensuite, avant d'en critiquer les faiblesses peut-être, que la démarche d'orientation vers la construction durable est tout à fait louable et indispensable. » Puis vous remettez ça page suivante, page 108, avec une petite pointe d'ironie, peut-être que dans le bâtiment comme ailleurs, tout le monde rase désormais plus vert. Hein. Mais vous dites bien que on a de la peine à s'y retrouver dans la jungle des labels environnementaux. Il y a une infographie qui est vraiment passionnante avec tous les labels. Et vous dites, le bâtiment est atteint du même syndrome que l'alimentation, où il est bien difficile, par exemple, quand on est confronté à des rayons de supermarché dans le rayon frais, à faire la différence entre produits de la ferme et produits fermiers. Hein. Et j'ai même vu apparaître un label que je ne connaissais pas, qui s'appelle... Alors, vous parlez du tout récent label bâtiment frugal bordelais, mais dans une note infrapaginale, vous dites attention, c'est pas parce qu'on est bordelais qu'on dit qu'il est bien. Hein. Et j'ai même vu apparaître le BDNA, le bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Alors expliquez-nous, c'est quoi cette histoire des labels là, Madame de Selva?
Effectivement, oui, c'est là dans la jungle des labels, parce que même nous, les architectes, on a du mal à s'y retrouver, j'avoue.
J'imagine.
C'est une manière de promouvoir aussi l'éco-construction. Donc, en fait, c'est surtout ça qui est important. C'est que je pense que voilà, les architectes et en fait la fabrique de la ville a beaucoup investi en fait l'éco-construction, c'est-à-dire la manière de construire avec des matériaux qui sont
recyclables, enfin.
Alors, qui sont en tout cas qui utilisent peu de ressources et qui sont faiblement après émetteurs de gaz à effet de serre.
D'accord.
Et il y a effectivement les fameux labels, mais ça c'est finalement le coup de tampon à la fin. Et en fait, justement, la question c'était d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui est vertueux et qu'est-ce qui n'est pas vertueux et pourquoi, et en fait quel est le cycle de la fabrique de la ville qui fait que on construit vertueux ou pas. Donc c'est là où on a essayé de faire un peu le tri dans tout ça. Donc évidemment, le bâtiment c'est un des premiers. L'industrie du bâtiment, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre, parce qu'il est très consommateur de matériaux et de ressources. Donc on a le ciment, on a l'acier. Donc tant qu'on utilise du ciment et de l'acier, on ne va pas s'en sortir. Donc il y a plusieurs pistes qui sont après récompensées par des labels, effectivement, à la fin.
Quand vous dites récompensées, c'est pas des hochets, ça se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, j'imagine, avec des subventions à la clé, c'est quoi?
Non, non, c'est pas des subventions, c'est des certifications. À la fois c'est du marketing, mais sinon c'est des certifications en fait la plupart du temps qui font intervenir des spécialistes. C'est une certification qui permet de qu'un bâtiment soit labellisé en fait. Alors il y a des certifications qui sont spécifiques au logement, des certifications qui sont spécifiques au bureau et d'autres qui on utilise des labels européens, on utilise des labels français.
Ça se monétise pas. C'est comme le yaourt fermier, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des maîtres d'ouvrage public ou privé qui disent bah, moi je veux un, donc, c'est un haut niveau de, environnemental.
Ça joue plutôt sur la RSE, quoi. Ça joue un peu sur la RSE.
Oui, ça va, ça, ouais. On peut mettre ça, oui, après, dans son rapport développement durable, éventuellement, ou autre. Et puis, pour le logement, où on va avoir un promoteur qui va revendre des logements, ça peut être du marketing, effectivement. Ça peut être
d'accord,
de dire.
D'accord.
C'est une commande, souvent. D'accord. En fait, un maître d'ouvrage, ou même un maître d'ouvrage donc institutionnel, peut demander voilà, quoi, moi, j'ai besoin d'un bâtiment avec tel ou tel label. Et donc, on répond à une commande. Ou un particulier, une maison, peut aussi demander. Qu'on construise avec tel ou tel label.
Sophie Janté, vous voulez ajouter un mot ?
Non, après, quand il y a des concours, par exemple, ça peut être un moyen de démarquer un projet par rapport à un autre. C'est celui, il y a eu un peu une surenchère d'aller chercher le label, le dernier, le plus haut. Voilà.
J'ai, comme ça, vous allez me dire si j'ai bien compris ou pas. J'ai vu, par exemple, le label lycée Kyoto, comme on disait, sur des lycées qui devaient être construits, bon, évidemment, par la puissance régionale, publique régionale, hein, puisque c'est la région qui est maître d'ouvrage en la matière. Et donc, là, par exemple, on va labelliser comme ça, et ça va donner des points, éventuellement, dans un barème de concours d'appel d'offres, c'est ça ? Voilà, oui, voilà. Alors, vous disiez à l'instant, Madame de Selva, que bah, quand on reste dans le béton et l'acier, on fait plutôt fausse route, on ne va pas s'en sortir. Et donc là, on arrive, par exemple, à la problématique des constructions en bois. Hein. Alors, je commence à sourire parce que j'ai vraiment apprécié, parce que j'ai même découvert quelque chose d'assez passionnant. Vous dites qu'en France, 6 ou 7% en moyenne des constructions bois en logement, enfin les constructions bois en logement représentent en France 6 ou 7%, c'est très très peu. Et vous dites qu'il y a, non pas un modèle français, mais on pourrait presque dire une exception française par rapport à l'Amérique du Nord, par rapport à la Scandinavie. Alors, vous citez un monsieur qui s'appelle Claude Lefrançois, hein, c'est un ancien artisan, qui est très connu avec sa chaîne YouTube, avec le pseudo de Papy Claude. Et il évoque des raisons historiques. Et alors il évoque les trois petits cochons. Bon, c'est pas. Vous êtes pas convaincu par ça parce que les petits cochons, bah, ils sont américains plutôt chez voilà. Disney. Hein. Encore que vous savez peut-être que l'auteur de la chanson, il est français. Hein.
Voilà. Et je crois qu'à l'origine c'est une histoire anglaise.
Oui. Mais alors donc, et vous évoquez une thèse de Frédéric Biamonti et Alain Duval dans un documentaire intitulé L'envers du béton, sorti en 2021, et puis celle de Jérôme Prieur, Le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration, livre sorti en 2017. Ah, c'est passionnant, je me permets de lire parce que l'excellence des entreprises françaises, dites-vous, en matière d'emploi et de traitement du béton, serait née 4 ans. À la suite de 4 ans d'intense activité entre 40 et 44, comme on dit, il y en a qui se sont beurrés au passage, qui se sont soldés, écrivez-vous page 134, par la construction de 8000 bunkers, alors moi, c'est moi qui précise de Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, et pour lesquels 17 millions de mètres cubes de béton ont été coulés, soit l'équivalent d'une bonne quarantaine de centrales nucléaires de type EPR de Flamanville. Et vous dites, là, il y a eu une telle. On va dire acquisition de savoir-faire que la notion de construction en bois aurait un peu disparu de l'imaginaire des architectes ou de ceux qui veulent faire construire.
Philippe Bihouic, ouais, alors c'est alors là, comme on a atteint le point Godwin, du coup, avec le mur de l'Atlantique, je vais même rajouter une couche, c'est que y a pas mal de gens qui en France ont expérimenté la baraque en bois.
Oui, vous en parlez d'ailleurs à propos du STO.
Avec le STO, avec les camps, et même avec les réfugiés ensuite, parce qu'il y avait
des
villes qui avaient été détruites.
Ça touchait tous les peuples, j'allais dire, d'Europe continentale.
Oui, mais bon, ça a peut-être contribué. Voilà. Donc voilà, c'est une hypothèse qu'on n'a pas inventée, hein, qui est forgée dans ce livre qui s'appelle Le mur de l'Atlantique. Mais voilà, de fait est que je pense qu'il y a quand même eu un. Voilà, peut-être une association à la baraque en bois, c'est le truc, c'est un peu la baraque des bidonvilles, le mot baraque, hein, quelque part. Voilà, rappelons-nous que, voilà, avant que les grands ensembles arrivent dans les années 60, eh bien, on a le long des lignes de chemin de fer, en région parisienne,
des bidonvilles,
et on vit dans des baraques en bois. Donc, donc je pense que le fantasme, c'était pas forcément d'habiter une maison en bois, voilà, donc ça a contribué, et effectivement, on a des entreprises aujourd'hui qui sont des championnes du béton armé et qui ont fait des trucs incroyables, et même dans le monde entier. Bon, voilà, donc c'est je pense qu'effectivement, on a un sujet autour de ça, et effectivement, ce béton, ce ciment, cet acier, ils sont extrêmement coûteux. Hein, on le dit dans le livre, d'ailleurs, si l'acier était un pays, ça serait le troisième pays le plus émetteur au monde après la Chine et les États-Unis. Si le ciment est aussi, enfin, ils sont tous les deux ex aequo, hein, avec à peu près 7%, je crois, des émissions mondiales. Donc, on a un peu un fantasme de dire, tiens, finalement, oui, on va faire de plus en plus de la construction en bois. Donc, ça se développe hein, quand même, parce que les 6-7% de maisons en bois, alors même définir une maison en bois, c'est compliqué. Hein, mm-hmm. Parce qu'en fait, même dans une maison en béton, il y a un peu de bois, il y a des portes, il y a du parquet éventuellement, il peut y avoir des fenêtres. Bon, et puis après, donc, est-ce que c'est ossature bois, est-ce que c'est... La charpente, d'ailleurs, souvent est en bois, déjà, quoi qu'il arrive. Donc, il y a tout un continuum, on va dire, mais si on devait vraiment les construire majoritairement en bois, en fait, on tombe après sur des problèmes de disponibilité de bois.
De la ressource.
Voilà, de la ressource. Donc, et encore, on a écrit ça avant les incendies de cet été. Hein, donc, ouais. Là, maintenant, on voit bien qu'effectivement, la forêt, elle va être soumise au climat, aux bio-invasions, etc. Et donc, on fantasme le fait qu'on va devenir un peu tous bas carbone parce qu'on va construire avec beaucoup moins de ciment et d'acier et beaucoup plus de bois. Et en fait, si on continue à construire autant, ça va être un petit peu compliqué. Et se réinscrire dans les limites planétaires avec que des biomatériaux, bah, ça ne va pas être du tout évident. Ce n'est pas pour rien que finalement, on s'est mis à construire avec autre chose que des biomatériaux à partir du milieu du 19e
siècle. Mais techniquement, Madame Janté ou Madame de Selval, d'un point de vue, on va dire, de la solidité de l'édifice, puisqu'on était dans la métaphore des trois petits cochons, vous évoquez la technologie inventée par un Français, du lamellé-collé, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Je crois qu'il y a une réalisation à l'OIN d'une tour en bois, hein, c'est ça
hein, de 16 étages.
Combien
de 16 étages.
16 étages. Elle est terminée
Oui, elle est terminée.
Et ça, il n'y a aucune différence, on va dire, en termes de résistance. On parlera tout à l'heure de notre terme.
C'est surtout des problèmes de... Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la législation, notamment les pompiers, en fait.
Ah oui.
Donc, il y a eu... Enfin, sur ce projet-là, en tout cas, il y a eu des problèmes, tout simplement, pour avoir les autorisations.
Ah oui.
Voilà. Donc, bon, après, ça s'est réglé. Et puis, du coup, ça fait avancer aussi, finalement... La réglementation sur des questions comme ça. Mais après, c'est assez exceptionnel. Il n'y a quand même pas beaucoup de constructions bois aussi hautes. Après, par contre, sur les autres biomatériaux, sur les géosourcés, on peut avoir des constructions, mais plutôt basses, effectivement. Mais c'est déjà pas mal. Si on peut déjà construire les maisons individuelles ou les petits collectifs en matériaux biosourcés, ben, c'est autant de ciment ou de béton en moins. Voilà. Donc, il y a quand même des pistes, même si ce n'est pas pour des immeubles de grande hauteur. Et puis après, le bois, ce qui peut se développer ou ce qui se développe aujourd'hui, c'est plutôt des solutions mixtes aussi, c'est-à-dire avec un soubassement, enfin une partie du bâtiment, la plus grande partie en béton, et puis y ajouter des étages en bois.
En surélévation.
Voilà, exactement. Quoi. Donc il y a des... Voilà,
On va évoquer un autre concept. Quand je disais que vous déboulonnez un peu les jeunes idoles, c'est la notion de résilience et surtout dans la dimension territoriale. Alors, vous faites tout un rappel de la notion de résilience hein, dans tous les États, hein, y compris, vous évoquez bien sûr Cyrulnik sur la psychologie, mais dans d'autres domaines. Et vous dites, la résilience territoriale semble être devenue le nouveau mantra des politiques publiques, balayant à la vitesse d'un variant agressif un développement durable dont plus personne n'ose plus parler. Et vous ajoutez, page 147, le concept de résilience est d'autant plus flou qu'il est polysémique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la résilience dans deux champs pour lesquels vous développez le propos, l'écologie et la socio-écologie ? Madame de Selva ?
Oui. Le terme est polysémique parce qu'effectivement, il traverse de très nombreuses disciplines, ce que vous venez de dire, donc de la psychologie, de la physique... Et aujourd'hui, beaucoup utilisé en résilience des territoires, donc en aménagement urbain. La définition, un petit peu, c'est l'idée en fait de dire que qu'un système, donc un système qui peut être une population, qui peut être une société, qu'un système qui est soumis à des perturbations, eh bien, il peut retrouver un équilibre, il peut survivre quelque part, sans pour autant retourner à son état initial. Donc, il n'y a pas l'idée d'un état stable, mais il y a l'idée de d'encaisser les chocs, quoi, quelque part, et de retrouver et de continuer à et de perdurer. Donc, encaisser les chocs et perdurer. Et donc, ça, c'est un peu la définition de la résilience en écologie, parce que c'était à partir d'observations voilà, d'écosystèmes. Donc, et en fait, la transposition sur les territoires, c'est l'idée de se dire, bah, si on peut, si on est capable, si une société, si un système est capable, voilà, de surmonter un choc en se réorganisant, en s'auto-organisant, et ben, en inversant un petit peu le propos, on peut aussi dire que une société ou un système est capable de s'organiser pour encaisser les chocs, donc en préventif quelque part. D'accord. Et donc ça, c'est assez intéressant donc en politique publique aussi, parce que ça veut dire qu'on peut...
Anticiper.
On peut anticiper. Mmh. Alors, c'est utilisé beaucoup dans la gestion de risques, en fait, inondations. Parce que les chocs en question, donc quand on observe les écosystèmes, c'était au départ sécheresse, incendie, enfin, des choses des choses qui sont pas forcément liées à l'action de l'homme, en fait. Mmh. Et donc, aujourd'hui, l'utilisation, c'est face au risque au départ, par exemple, voilà, d'inondations, d'événements climatiques majeurs. Et en fait, mais c'est aussi face aux risques qui sont tous les effets du changement climatique, qui sont des risques beaucoup plus longs dans la durée, qui sont plus systémiques, etc.
Voilà, donc le déplacement du trait de côte, des choses comme ça.
Donc voilà, le déplacement du trait de côte, le réchauffement continu. Donc en fait, il y a une utilisation comme ça, donc en la résilience territoriale, donc en aménagement urbain, mais qui peut aller très loin, parce que donc, souvent, en termes de résilience, c'est ça un petit peu qu'on pense tout de suite à la lutte contre les îlots de chaleur, donc au fait de planter des forêts en ville, etc. Donc des petits éléments en fait assez techniques et assez
Vous dites que c'est pas pour taquiner ceux qui font les micro-forêts.
Mais c'est très bien.
Enfin, quand même, ça va. Je crois que
c'est très bien de planter 1000 arbres, etc. Enfin, c'est tout à fait vertueux. Mais en fait, souvent la résilience, si on prend vraiment ce que ça implique en termes de bouleversements sociaux et économiques, ça peut aller très très loin en fait, parce qu'il s'agit vraiment d'aller chercher. Alors, on pourrait donner l'exemple, par exemple, de la résilience alimentaire. Donc, qui est aussi on peut tirer le fil quelque part de la résilience alimentaire. C'est une des briques quelque part de la résilience territoriale, parce que c'est comment gagner en autonomie, finalement, pas forcément en autonomie, mais au moins rendre plus robuste en fait toute la chaîne alimentaire. Mais la chaîne alimentaire, c'est notre assiette, mais c'est de la production en fait à notre assiette quelque part. Et donc si on prend chaque maillon finalement de cette chaîne alimentaire et qu'on regarde exactement tout ce que ça implique, c'est pas seulement le bio, c'est pas seulement le circuit court, mais c'est aussi évidemment la préservation des terres agricoles. Donc ça, c'est exactement de ça qu'on va parler après pour l'étalement là-bas. Mais c'est aussi par exemple conserver une diversification des semences paysannes. C'est penser même, ça va jusqu'à pouvoir réparer des engins agricoles. Ça va jusqu'à au traitement des déchets. Enfin, en fait, en tirant ce fil-là, on aboutit à une profonde recomposition quelque part.
On réinterroge le réel.
Le réel, mais physique, de l'organisation des politiques.
Je m'excuse parce que le temps passe. Puis si on veut que c'est vraiment passionnant, on ne va pas le temps passer. Alors, Madame de Selva, vous abordez la. Un point qui est important, ça fait au moins l'objet de deux chapitres, le fameux passage, on va dire, de la ZAN à la ZAB, du zéro artificialisation nette au zéro artificialisation brute. Il y a quelque chose qui est très, très intéressant dans votre travail. On retrouve la problématique de la densité. Tout à l'heure, en matière de mesure d'artificialisation des sols, les résultats observés sur un même territoire varient fortement en fonction des méthodes et des sources utilisées, donnant un rythme au niveau national compris entre 10 000 et 58 000 hectares d'artificialisation par an. Un tel écart, c'est moi qui le dis là, du simple au sextuple, ça dépasse même les écarts qu'on trouve entre les manifestants selon la police et selon les organisateurs certains soirs de journée nationale d'action. Alors, vous avez, comme il y a de l'humour dans votre livre, vous écrivez page 175, ces statistiques manifestement peu stabilisées donnent lieu à quelques punchlines imagées selon la sensibilité de chacun à la géographie ou au football, puisque c'est là qu'on arrive à des fameux chiffres, un département qui disparaît tous les en France tous les 6 ans, etc. Bon, comment traiter la question des ânes pour arriver aux ZAB quand déjà on a du mal à comprendre le processus d'artificialisation, peut-être Madame Janté, je sais pas, celui où voilà.
Oui, enfin, on se complétera. Bah, en fait, effectivement, c'est donc la loi climat résilience là, oui, qui a posé 2021, mais bon, ça avait déjà démarré avec effectivement la loi biodiversité où il y avait déjà le sujet de l'artificialisation. Donc effectivement, donc l'objectif c'est d'avoir zéro artificialisation nette. Alors ça ne veut pas dire qu'on artificialise plus. Ça veut dire qu'on artificialise moins et que ce qu'on artificialise, on le compense par de la renaturation. Donc en fait, on est encore dans une logique de compensation.
Vous dites que c'est pas terrible, mais c'est faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
C'est déjà mieux que de laisser artificialiser comme on le fait aujourd'hui ou comme on le faisait aujourd'hui. Mais après, bon, ce qu'on développe, c'est qu'il y a déjà un système, le principe, la démarche de compensation. Elle existe déjà dans la loi, notamment pour la protection de la nature. Quand vous touchez, quand vous faites un projet que vous impactez, donc on parle d'impact, là, ouais, effectivement, ouais, vous impactez de la biodiversité ou une zone humide, vous êtes, la loi vous oblige à compenser l'impact que votre projet a sur des zones humides ou de la faune ou de la flore, avec des ratios, enfin, pareil, il y a des chiffres qui sont pas les mêmes d'ailleurs d'une région à une autre souvent, mais voilà. Et donc là, le système, c'est le même système, mais c'est pour le sol. Donc on impacte le sol, on vient anthropiser ce sol qui était naturel, et donc du coup on va devoir le compenser en prenant un parking et puis on l'escavant et puis en le renaturant. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, donc d'abord il y a débat sur les chiffres, c'est ce que vous dites, mais ça encore, on est en train de stabiliser les choses là. Donc ça serait de l'ordre de 26 000 hectares par an.
Pas 58 000 alors.
Voilà, pas 58 000. Après.
Mais pas 10 000 non plus.
Mais pas 10 000 non plus. Aujourd'hui, il y a une base qui va être établie ou qui est en cours d'établissement, un observatoire de couverture des sols à l'échelle nationale. Sachant qu'on a déjà demandé à chaque région de commencer à travailler sur les documents réglementaires à l'échelle, donc ce qu'on appelle SCOT, après c'est tout le verbiage d'urbaniste, ouais, jusqu'au règlement d'urbanisme.
Du maquis des schémas. Hein.
Local, voilà. Donc on a déjà demandé aux collectivités de travailler, parce qu'on a le devoir déjà de réduire, nous, cette artificialisation à 50%. Dans les 10 ans à venir, et d'être à zéro, donc d'être en neutralité à 2050. C'est-à-dire à partir de 2000... Enfin, pour arriver à ça, il faudra renaturer des terrains, on ne sait pas où, quoi. Et en fait, aussi, donc indépendamment de ces questions de compensation et d'artificialisation, ce qu'on a voulu montrer aussi dans le bouquin, c'est qu'en fait, il y a une forte concurrence aujourd'hui sur le foncier. Parce qu'on va vouloir renaturer, on va vouloir faire la transition écologique, on va peut-être y venir après. Et en fait, donc, si on veut continuer à construire, si on veut continuer à se développer économiquement, ben voilà, on voit que le sol est de plus en plus précieux.
Surtout que vous dites que, et ça c'est quand même très intéressant, il ne s'agit pas, à propos de la vente, hein, des terres agricoles, vous dites avec encore un sens de la métaphore, il ne s'agit pas ainsi de mettre un peu de beurre dans les épinards à l'échelle du pays, cela permet de doubler et peut-être bien plus les revenus agricoles.
Ouais.
Vous dites, et ça c'est souvent peu évoqué, c'est-à-dire que les agriculteurs, quelque part, compte tenu de la modicité, on va dire, hein, des revenus agricoles, ils vendent leurs terres, sauf que, sans y connaître grand-chose, c'est comme vendre les bijoux de la couronne, c'est Watson. Une fois que vous avez vendu vos terres, c'est-à-dire que vous avez perdu quelque part la ressource.
Oui, peut-être un petit complément là-dessus. Alors, c'est un calcul de comptable qu'on fait en prenant tout simplement le nombre d'hectares qui sont artificialisés. On prend un chiffre d'ailleurs prudent, je crois, de 20 000 hectares.
Oui, vous le dites bien.
Et puis on multiplie par une plus-value prudente, puisque c'est facile de comparer le prix d'un mètre carré de terre agricole et puis le prix d'un mètre carré de foncier, de constructible. Donc, on attend que Bercy nous confirme les chiffres, mais en gros, effectivement, ça représente peut-être 15-20 milliards d'euros. Effectivement, c'est de l'ordre de grandeur des revenus des agriculteurs aujourd'hui en France par an. Donc, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on artificialise le pays, et ça fait 50 ans que ce truc-là contribue à faire tenir le système agricole. Il n'y a pas que les subventions européennes, il y a aussi le fait qu'on pouvait se payer la retraite, donc on pouvait peut-être installer fiston, construire un poulailler, j'en sais rien, industriel, grâce à un flux d'artificialisation. Donc c'est un peu dingue, mais ce qui est terrible, c'est qu'évidemment, d'abord, ce n'est pas forcément des agriculteurs qui vendent, ça peut être des héritiers d'agriculteurs. Enfin, tout le monde n'est pas forcément... On peut détenir du foncier sans être agriculteur. Aujourd'hui, aux franges des villes et des métropoles qui s'artificialisent. Et puis, c'est affreusement inégalement réparti. Ça ne descend pas sur tout le système agricole. Ça descend sur ceux qui ont la chance d'être aux franges de la ville qui continue à grignoter. Donc, c'est un peu terrible d'avoir des gens qui font la culbute d'un côté, quel qu'il soit, et puis d'autres qui s'endettent sur 25 ou 30 ans pour s'acheter un appartement dans un immeuble qui sera construit sur cette terre artificialisée ou une maison. Donc, c'est un peu ça le sujet. Et donc, pourquoi on dit qu'il faut passer au ZAB,
zéro artificialisation brute. Hein.
Voilà.
Ça veut dire là, en fait, il faut plus.
Donc on artificialise plus du tout.
Voilà.
Donc
c'est
un peu choquant parce qu'aujourd'hui faire ZAN c'est déjà très compliqué et il y a déjà des levées de boucliers partout.
Ouais.
Et nous on dit bah non en fait c'est juste va falloir même aller plus loin parce qu'en fait ZAN c'est comme les émissions finalement c'est la même logique que zéro émission nette en 2050 on dit. On aura encore des émissions résiduelles parce qu'il y aura quelques trucs qu'on devra quand même faire en cramant du charbon, je sais pas quoi, quelques trucs. Et ces émissions, elles seront compensées par des puits qui seront a priori des puits naturels, peut-être artificiels dans la vision les plus technophiles, mais on va dire globalement les forêts, les sols et autant à l'échelle planétaire les océans, s'ils fonctionnent encore. Donc on émet encore un peu, mais il y a un puits et donc on est à neutralité carbone. C'est ça l'idée. Et donc la ZAN, c'est la transcription territoriale de ce truc-là. On continue à artificialiser un peu, et puis en face, il y a un flux de renaturation. Mais la différence entre une forêt qui pousse ou un océan qui absorbe des trucs et la renaturation, c'est qu'à un moment, on va manquer un peu de terrain artificiel à renaturer. Le flux va s'arrêter, et en plus, c'est très très cher de renaturer potentiellement des terrains pollués, etc. Donc en fait, en réalité, on fait semblant qu'il y a un flux à renaturer, mais il n'existe pas, on le trouve pas, on ne sait pas où il est.
D'ailleurs, on le connaît pas.
Trois vieilles stations-service, des carrières, quelques usines en perdition de désindustrialisation, et en fait, il n'y a rien.
C'est là qu'on se rend compte que vous abordez la dimension politique, parce que là, on est vraiment au cœur des choix politiques, et vous dites que il faut retrouver le courage politique, aller plus loin, implique le courage politique de s'attaquer à un sujet sensible, celui de la propriété privée, ça c'est page 220, à peu près intouchable depuis la Révolution française. Vous citez un extrait de Proudhon qui est assez extraordinaire, parce que Proudhon a tendance à dire la propriété c'est le vol, enfin, la phrase la plus connue de Proudhon, mais en fait il se révèle un commercial agressif des maisons Phénix, si je puis dire, en disant je ne connais rien de plus beau que ma maison individuelle et je donnerai en gros tout l'or du monde pour mon petit le pain de jardin. Le Proudhon qui est souvent évoqué. Alors vous dites d'ailleurs il faudra aller peut-être à des réquisitions ou expropriations, sinon point de suspension. Alors on regrette presque vos points de suspension, on aurait aimé connaître la suite du sinon. Alors vous citez une politique qui s'appelle Emmanuelle Wargon, enfin elle a dit qu'elle se retirait de la vie politique, propriétaire d'une maison à Saint-Mandé, ça lui a été renvoyé à la figure, dites-vous, alors qu'à la tribune de l'Assemblée nationale, elle avait dit qu'il fallait remettre en cause le rêve de la maison individuelle. Bon, et vous dites d'ailleurs que c'est cruel parfois la politique, bon ça on le savait, mais bon. Par contre, vous dites, page 265, 75 à 80% des Français souhaiterait habiter une maison individuelle. Alors expliquez-nous comment vous faites pour changer cette espèce de mentalité qui est quand même très inscrite dans l'opinion ou dans la culture des Français. Madame Janté.
Bon, après, justement, nous, on dit pas forcément qu'il faut arrêter, enfin, qu'il faut mettre fin aux maisons individuelles.
Non, vous dites au moins de frais de mitoyenne.
Voilà, exactement, quoi. Donc, en fait...
Pas des maisons à quatre côtés, comme disent les Belges, c'est ça, ils disent.
Voilà, c'est ça, exactement, quoi. Ce qu'on dit, c'est que s'il y a expansion urbaine, parce que du coup, on est plutôt dans une logique, on l'a vu, d'utiliser le déjà-là, en fait, déjà, d'optimiser tous les mètres carrés qui existent, parce qu'il y en a beaucoup, et des logements vacants, on y reviendra, mais il y a des potentiels déjà existants, construits, bâtis, donc on n'a pas besoin de construire, parce qu'ils le sont. Après, le deuxième gisement, finalement, c'est des fonciers qui sont déjà, des terrains qui sont déjà aménagés, qui peuvent être déjà occupés justement par des pavillons, par des maisons individuelles, et qui pourraient être redécoupés pour offrir des possibilités encore, du coup, de maisons individuelles pour satisfaire aussi une demande, une attente, mais qui seraient dans ces cas-là peut-être mitoyens à d'autres maisons, en tout cas sur des plus petits terrains, et qui ont l'avantage d'être déjà dans des zones où il y a de la voirie, où il y a des réseaux. Donc, on ne va pas aller recréer, par exemple, un lotissement à l'extérieur ou à l'intérieur du périurbain. On peut s'appuyer sur des lotissements qui existent déjà, en les optimisant, si je puis dire, en faisant de la densification, ce qu'on appelle de la densification douce, quoi. Voilà. Et donc, avec la possibilité où les gens pourraient vendre, finalement, un bout de leur terrain, s'ils le souhaitaient. Alors, aujourd'hui, c'est très contraint, parce qu'il y a des réglementations, pareil, des cahiers des charges de lotissement qui empêchent tout ça. Et du coup, avant peut-être d'exproprier effectivement les gens, parce qu'on a quand même quelques solutions autres, un peu plus démocratiques, enfin en tout cas qui respectent aussi la propriété privée, on peut commencer justement à travailler. Il y en a qui le font d'ailleurs aujourd'hui, hein, on les cite dans le livre, sur justement investir ces lotissements de maisons individuelles qui pourraient être intéressées par...
Mais vous citez aussi une journaliste, alors peut-être que je vais mal dire son nom, c'est Mme Duvie ou... qui dit le rêve de la maison individuelle est une construction pour jeunes couples avec enfants en bas âge. C'est une représentation. Je sais pas si je dis.
Oui, ce que je voulais compléter pour dire, on n'est pas là pour donner des leçons. Hein. Ouais. On ne dit pas tout le monde doit habiter dans des petits appartements, je sais pas quoi.
Vous dites avec le plafond qui.
Voilà, dans du R+4, avec 2,50
mètres. Au fur et à mesure que les Français grandissent, le plafond descend.
Voilà, ça c'est Sylvain Grisot avec qui on est en webinaire effectivement mi-novembre qui raconte ça. De la même manière qu'on ne veut pas décrire une ville idéale, ouais. La ville stationnaire, ce n'est pas une ville idéale avec les 5040 foyers de Platon et je ne sais pas quoi. La ville stationnaire, c'est la ville d'aujourd'hui, et dans toute sa diversité, etc. Et de la même manière, les solutions, elles ont toute une diversité. Ouais. Ce qu'on dit sur l'histoire d'effectivement du jeune couple avec enfant, qui est content dans son pavillon, puis qui va se rendre compte quand les enfants vont devenir ados qu'il faut passer son temps dans la voiture pour leur faire toutes les activités, les machins, etc. Et puis, à un moment, on devient plus âgé, puis on en a marre de tondre les 1000 mètres carrés de Proudhon. Mmh. Là, c'est un dixième d'hectare, effectivement. Mmh. Et puis, on a peut-être envie de se rapprocher du centre-ville, d'aller faire ses courses à pied, d'être pas loin du kiné et de la pharmacie. Donc, ce qu'on dit, c'est quoi, voilà, en fait,
belle vision des retraités, quand même.
Non, oui, bah, enfin, je dis pas que tout le monde.
Non, pardon, je vous taquine.
Voilà, mais c'est bon, il y a une réalité quand même. Sociologique. Hein, donc, c'est de dire qu'il faut favoriser en fait des parcours résidentiels qui sont aujourd'hui peut-être un petit peu figés, un peu compliqués, parce qu'on s'endette, parce que le prix des logements ça augmente, donc on peut pas forcément changer facilement, parce qu'il y a des frais de mutation qui fait qu'on peut pas vendre et acheter un truc comme ça. Voilà, et que du coup, ça contribue du coup à figer effectivement des schémas d'occupation qui mènent à la sous-occupation dont on parlait tout à l'heure et qui mènent au fait que maintenant, avec d'autres phénomènes comme la décohabitation,
etc., les infographies sont très claires.
Voilà, fait que on se retrouve avec donc métropolisation et décohabitation sont les deux mamelles du bâtiment. Hein, et donc, on se retrouve avec ce truc-là de dire on construit 350 000 logements par an. Et le stock augmente de 350 000 par an. Et là-dedans, il y a 250 000 résidences principales, 50 000 appartements de tourisme ou résidences secondaires et 50 000 vacants. Donc, en fait, quelque part, on construit du vacant. Enfin, si on se regardait vu de l'espace, on dirait, mais ils sont complètement idiots, ces gens-là. Ils vident des trucs et ils construisent à côté pour remplir. Donc, voilà, donc c'est cette diversité-là. Et on dit que là-dedans, une des possibilités, c'est ce qu'on pourrait appeler la densification douce. Alors, on ne l'a pas inventé, hein, on n'est pas les seuls à en parler. Et notamment dans tout ce peut-être ce, ce, ce périurbain qui s'est construit dans les années 60, 70, 80, ben, il y a plein de places, en fait, parce que potentiellement, aujourd'hui, on a des plus petites parcelles et les gens ne sont pas malheureux, etc. Et donc, c'est aussi des configurations urbaines
qui peuvent être retravaillées. On va terminer. J'aurais voulu qu'on évoque le comportement des politiques. Hein. Vous dites il y a des obstacles. Vous dites comment reprocher un élu. Quel édile rêve de stabiliser sa ville, de renoncer à la croissance. Moi, j'en ai connu qui, sous des propos en disant « Ok, pour une métropole millionnaire », quand on les interrogeait individuellement en disant « Alors, toi, dans ta commune, tu construis combien de logements ?» Enfin, je voyais à quoi je fais référence. Ils disaient « Oh non, non, pas chez moi, parce que je suis pas idiot, je vais pas déstabiliser mon électorat en faisant venir une population qui va me foutre en l'air éventuellement dans deux mandats. Hein, » voilà. Donc c'est souvent parfois un petit peu plus ambigu, compliqué que ça. On va terminer par le retour à John Stuart Mill, parce que c'est vraiment le principe de votre réflexion. On en parlait au début de notre propos. Et donc, vous dites, je vous cite page 301, ne cherchons pas non plus à créer de nouvelles utopies urbaines, même s'il est toujours bon de s'en inspirer et de rêver un peu, et c'est ce que vous avez dit à l'instant, Philippe Biwix, les villes idéales sont déjà là, ce sont celles que nous habitons, et vous dites, elles sont belles ou elles sont pas belles, etc. Ben, en tous les cas, c'est là où nous sommes, et je crois que c'est une belle manière de conclure, parce que finalement, en quoi, alors, et vous allez nous dire peut-être tous les trois, hein, les unes après l'autre, en quoi ces villes idéales justement sont celles que nous habitons, parce que vous aimez les villes très clairement, vous êtes des urbains sans en même temps proposer de mettre les villes à la campagne, on l'a bien compris, madame de Stelva.
Les villes, l'idée, voilà, c'est. Il y a un débat, qui a toujours existé sur voilà la taille idéale de la ville, quelle est la ville idéale, est-ce que c'est les écocités, etc. Enfin, donc nous on n'est pas là pour dire quelle est la taille idéale de la ville, parce que justement le propos c'est de dire faisons avec ce qu'on a, parce que il faut, si on dit qu'il faut construire un petit peu moins, c'est aussi pour dire qu'il faut utiliser les murs et les planchers qu'on a déjà quelque part. Donc ces murs et ces planchers, ils sont pas forcément dans les métropoles, en fait, la vacance ou les logements sous-occupés ou les bureaux ou tous les mètres carrés qui sont un petit peu sous-occupés ou qui pourraient être mieux utilisés, ils sont pas forcément dans les métropoles, justement, ils sont peut-être ailleurs, dans les villes un peu moyennes, dans les bourgs, dans les villages, dans les... Alors, ils sont justement, il y a une mauvaise adéquation quelque part entre les mètres carrés qu'on aurait, qui seraient disponibles quelque part théoriquement, et là où les gens sont. Donc, et hors la métropolisation, finalement, les efforts qu'on fait sur la métropolisation et sur les métropoles et sur les grosses villes, c'est de dire, on va construire toujours plus pour accompagner en fait les emplois et accompagner l'afflux de population. Et donc, l'idée, c'est un peu d'inverser quelque part le regard et de se dire, il faut plutôt aller créer des emplois, créer une dynamique dans des endroits où il y a déjà des maisons qui sont déjà construites, quoi, en fait. Donc c'est assez, alors évidemment, c'est purement théorique. Ça, voilà, on va pas redistribuer de force les gens sur un territoire, mais en fait, c'est quand même l'idée du changement de paradigme, mais de se dire. Faisons un peu l'exercice mental de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait plus construire du tout et si on pouvait plus artificialiser, c'est-à-dire si on pouvait plus utiliser des sols naturels. Qu'est-ce qu'on ferait
Merci Madame Janté.
Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, nous on a plutôt un discours enthousiasmant, quoi. C'est-à-dire on essaye d'inviter à réfléchir autrement, c'est-à-dire on essaye de faire avec ce qu'on a, mais ce qu'on a à l'échelle de notre territoire, effectivement, pas seulement de nos métropoles ou de nos villes, en disant on a des réserves, il faut connaître en fait notre patrimoine parce qu'on ne le connaît pas assez. Donc il y a tout un travail effectivement d'inventaire et de connaissance de ce dont on dispose déjà et des capacités offertes par ce dont on dispose déjà. Et donc, réinvestissons déjà, remettons de la vie, remettons, animons tout ce qui existe déjà. On voit les villages, on se dit, il n'y a plus d'école, mais elle y est, l'école, elle est juste fermée. Alors, des fois, c'est une salle des fêtes, mais du coup, finalement, l'école, elle y est. Si on remet des enfants et si on remet des familles dans ces villages, il n'y aura peut-être pas besoin de construire une école. Donc, en fait, c'est plus une invitation de réfléchir effectivement autrement. Si demain, on ne pouvait plus du tout artificialiser, ce qui va être bientôt le cas, effectivement. Et si pour des raisons de transition écologique, il va falloir qu'on réduise fortement notre consommation de ressources et d'énergie, aménageurs, architectes, décideurs, politiques, habitants, il faut qu'on raisonne différemment.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une invitation heureuse à réfléchir autrement. Voilà.
Et Philippe Biwix, le mot de la fin.
Oui, bah c'est vraiment un complément, juste à donner un ou deux chiffres. Pour ce... Donc, l'INSEE, par exemple, suit la question de la suroccupation, de la sous-occupation. Donc, il y a des logements en situation de suroccupation aujourd'hui en France, c'est du mal-logement, des gens qui se serrent dans des tout petits apparts. Et puis il y a des gens qui, pour différentes raisons, parce que les enfants sont partis faire des études, parce qu'il y a plein de raisons, parce qu'on est veuf ou veuve, enfin il peut y avoir plein de cas, ou parce qu'ils sont riches tout simplement, j'en sais rien, voilà, vivent dans des logements qu'on pourrait définir comme étant sous-occupés, dans la définition de l'INSEE. Si on colle à la définition de l'INSEE de dire c'est quoi, donc il y a un nombre de pièces en fonction de la taille de la famille et tout ça, on pourrait accueillir, entre guillemets, 10 millions de personnes sans construire un mètre carré. D'accord. Si la vie était bien faite, entre guillemets, si on bourrait à toc, si je puis dire, tous les villages, les villes moyennes de France et le sous-occupé et le vacant. Évidemment, c'est une vision complètement théorique et idiote. Et puis, de toute façon, il n'y a pas 10 millions de personnes dans la trajectoire démographique de la France. C'est plutôt une très, très, très légère croissance, voire une stabilité. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc, mais pour ça, évidemment, il faut effectivement arrêter de faire grandir les grosses villes et de vider les petites ou les moyennes. Alors, il commence à y avoir avec la crise sanitaire des mouvements hein, de revival de ces échelles-là, justement, parce qu'elles sont, ce sont des bonnes échelles de résilience, ce sont des bonnes échelles de transition environnementale, et ça s'articule aussi d'ailleurs avec les questions des pratiques agricoles du futur, hein, parce qu'il faudra un peu plus de monde quand même à la campagne, avec des qui sont pas des emplois pour ramasser à la main, hein, je veux dire, c'est pas en démécanisant, mais il y aura quand même des besoins. Et du coup, d'aller concentrer nos forces, quelque part humaines et techniques, sur la rénovation. Parce qu'on a quand même un sujet, c'est que l'ensemble des trajectoires, que ce soit les assos écolos ou que ce soit la stratégie nationale bas carbone très officielle, en passant par des entreprises très sérieuses ou des institutions comme l'ADEME, l'ensemble des trajectoires qui nous amènent à 2050 réclament un effort d'isolation des bâtiments qui est x20 à 25 par rapport au rythme actuel.
D'accord.
Ça va rénover 20 fois à 25 fois plus vite qu'aujourd'hui. Je ne sais pas avec qui on va faire ça, comment, avec quel argent, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, ce qu'on met sur le neuf, on ne le met pas aujourd'hui sur la réparation ou l'adaptation de la ville. Et ça va effectivement nécessaire. Et voilà. Et donc, alors, il y a une autre solution, hein, c'est effectivement c'est de ne pas rénover et puis d'arrêter de chauffer. On a commencé, là c'est 19, et puis on va voir en 2050 à combien on sera si on n'a pas réussi à rénover les logements. Mais bon, ça serait sympa quand même de se concentrer sur ça.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Clémence de Selva, Sophie Janté et Philippe Biwix.